La MRC de Bécancour est fière de présenter ce balado qui nous amène dans les coulisses du livre « À village découvert » par le conteur Marc-André Fortin. Bonne écoute!
Chaque village a son histoire. Chaque village a quelque chose de légendaire. Des gens plus grands que nature, puis bien des anecdotes à se raconter. Bienvenue dans le balado « À village découvert » avec le conteur Marc-André Fortin.
Prochaine question, s'il vous plaît.
Je tourne.
J'achète une voyelle.
Je tourne.
Je tourne. Non, mais c'est vrai que mes oreilles l'avaient fait aussi. Là, il disait, madame, c'est pas vous qu'il faut qu'il tourne. C'est à la roue.
Oui, c'est vrai.
Puis là, tu l'entendais que le son a passé. Mais je tourne. Je tourne.
Frédéric Lalumière. D'abord mon agent, ensuite mon gérant, puis maintenant un ami. Un bon, là. Sinon, j'aurais pas jasé avec lui dans le balado. Grand gestionnaire de l'entreprise Oye Oye Productions. C'est par l'animation historique que je l'ai croisé. Il me trouvait drôle. Puis j'ai la tendance joyeuse à bien apprécier les gens qui me trouvent drôle. Frédéric, c'est comme le Paul Oud de l'histoire. Il connaît plein de statistiques puis d'anecdotes oubliées. Je suis sûr qu'il sait combien de pintes de pétille qu'il s'est bu le 17 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham avant l'arrivée de Wolfe. Fait que pour tout ça, je pouvais pas l'inviter.
Pourquoi t'as dit oui, toi, à ça? À juste venir jaser? Parce qu'on fait une jaser, là. Parce qu'on aurait pu le faire dans ta cave chez vous avec une bière aussi, là.
Ouais, mais c'était comme la première fois que j'étais dans un livre. Fait que je suis venu défendre ma position, d'illuminer.
OK, on va aller directement là. Quand tu t'es vu dans le livre? Parce que je l'avais-tu dit? Je l'avais-tu dit avant?
Non,
ou...
non, tu me l'avais pas dit avant. Tu m'avais dit, attends-toi une surprise.
C'est mon genre, ça. Mettre des gens qui m'entourent dans mes histoires puis pas leur dire juste pour leur faire la surprise.
Puis quand tu t'es vu, ben, tu connaissais déjà le gag.
Oui, je connaissais déjà le gag, bien sûr. Tu me l'avais sorti à quelques reprises.
Oui, c'est
en
ça.
Animation.
Parce que là, évidemment, là, les gens ne le savent pas. Frédéric Lalumière, beaucoup de contrats qu'on a fait ensemble. Et je t'appelais la lanterne.
Oui.
Parce que t'es un être plus illuminé que brillant.
Bien sûr. Et ça faisait changement du 2 watts dans mon ancien surnom qui était juste 2 watts.
T'avais ça comme surnom pour de vrai?
Ben oui, j'ai pris plus de puissance puis de rayonnement.
On disait que chaque village avait son fou. Fait que ça serait bien important que je vous dise que c'est Fred, lui, que contrairement aux autres, ben c'est juste son nom que j'ai mis dans le livre. Parce que Fred, il vient pas d'un village, puis il est pas fou. Il est pas fou. En tout cas, pas devant moi.
Frédéric Lalumière, dit la lanterne, était ce que la parlure populaire présentait comme le fou du village, l'idiot de la paroisse, la coqueluche des cantons, comme une maladie qui contagionne toute une région. Lorsque la lumière éteignait le fanal de sa maison, il n'y avait plus grand-chose de brillant à l'intérieur. Chaque matin, il mangeait un crapaud vivant parce qu'il affirmait que rien de pire pouvait lui arriver le reste de sa journée. Il pouvait rester des journées entières à l'orée de la forêt, prétextant qu'il valait mieux écouter la forêt pousser que l'arbre qui tombe. Parfois, il arrivait à certains villageois de le surprendre en pleine discussion avec des cailloux. « Il manquait une pierre au dernier repas », déclarait la lumière à chaque fois. Il avait également posé dans tout le village des épouvantails à nuages. Il disait que c'était plus efficace que les chapelets sur la corde à linge. Et lorsque les femmes du village étendaient leurs grands draps blancs sur leur corde à linge, la lumière n'osait pas sortir de chez lui par crainte de croiser une rangée de fantômes. Par contre, il pouvait s'enduire de miel dans l'espoir de valser avec un ours.
Note importante ici. Ce petit bruit-là, là, cette voix-là, bien, vous risquez de l'entendre souvent. Valérie Deschamps, la voix du livre, l'extracteuse des écrits importants, une minière à pépites écrites. Mais elle ne va pas juste faire ça, là. Comme je la connais, bien, elle risque de venir commenter. Ici et là, mais surtout là.
Assurément que si je peux intervenir, m'a le faire. Hein? Des fois, il faut bien te ramener à l'ordre, Marc-André. T'es bon ben... pour partir sur une bulle, toi, des fois.
Quand je disais que je la connaissais bien, mais pour l'heure, on va revenir à ma lanterne préférée.
Avec l'entreprise Oye Oye, tu travailles beaucoup avec le légendaire. Partir de quelque chose de concret, puis de toujours l'agrandir, ou ce qui est déjà immense, on va travailler avec ce matériel-là. Puis il y a plein d'histoires là-dedans, je trouvais, qui allaient là-dedans. Puis il y en a un, mettons, ça s'appelle « Le père à pluie ». Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Du curé.
Du curé qui commande l'eau.
Oui, c'est ça. Il fait le miracle là, en étendant son linge. C'est bien, bien simple. Mais toi, tu l'avais déjà entendu, cette histoire-là? C'est quelque chose que tu connais? Tu travailles avec le matériel légendaire?
Du légendaire, oui. Celle-là en particulier, pas tout à fait. Parce que toi, tu as quand même le don de ramener des personnages dans des situations ou des contes plus que les autres conteurs que je connais.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, parmi notre équipe de conteurs, ben, on a souvent des référents plus vieux, des contes plus traditionnels. Toi, tu vas démonter des contes, tu vas insérer des personnages, tu vas les mettre dans des contextes complètement différents. Puis c'est ça, je pense. Comment je pourrais expliquer ça? Je sais pas.
Pourquoi on a tant... Moi, je me pose beaucoup de fois la question. Pourquoi on utilise toujours des choses grandiloquentes, plus grand que nature? Pourquoi on veut un curé qui fait mouiller quand on pourrait se contenter du quotidien? Pourquoi on fait ça? Il me semble qu'on est fort là-dessus.
Ah, je pense que c'est pour dégriser le quotidien. Le quotidien, il est grillé. On veut changer. Moi, en tant que gestionnaire, en nous engage pour mettre du grandiose dans quelque chose. Hein? On prend une situation, une fête, une commémoration, puis on va essayer de la rendre plus grande pour aller essayer de rejoindre l'imaginaire ou de créer quelque chose de plus qu'imaginaire. Donc, de prendre une situation, de la grossir, de la sortir de son contexte, de l'amener en vie, surtout, puis de rendre le légendaire vivant pour certains. En même temps, ben, on les éduque sur des personnages qu'ils connaissent peut-être pas, puis pourquoi pas quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, surtout dans la façon dont il est livré. Parce que les personnages qu'on utilise, qui sont livrés par des comédiens professionnels ou des conteurs professionnels, il y a une façon de le livrer qui le rend intéressant aussi. Hein. On pourrait dire que ça, justement, Joe Monferrand, il était fort, il était ça, mais s'il n'y a pas tous les détails qui viennent avec, s'il n'y a pas toutes les subtilités puis les images qui sont créées par les interprètes, ben ça va être moins grandiose, c'est sûr.
Parce que j'ai comme l'impression... Puis en même temps, je ne sais pas si tu as une piste de solution, mais on dirait que notre bestiaire québécois, c'est bâti de légendes, contrairement, mais je ne sais pas, mais tu sais, au mille et une nuits, c'est des personnages bien, bien précis, c'est des archétypes. Nous, on en a, mettons, le Louis Cyr et Joe Monferrand, c'est des hommes forts, mais on a beaucoup de... C'est des événements aussi. Un curé qui a fait arriver une tempête, qui a arrêté une tempête, le ciel qui allait nous tomber sur la tête, puis ça a créé des inondations, puis tout ça. Il me semble qu'on a beaucoup ça, nous, des événements qui créent notre légendaire, tu sais. Le canot qui vole, c'est pas une personne, tu sais. On peut pas rattacher ça à quelqu'un, mais le conte est sur un canot qui vole. C'est encore là un événement d'un canot qui volait.
Pourquoi tu penses une interprétation locale d'un conte qui existait déjà, comme le canot volant vient d'un cheval volant, d'une légende européenne adaptée à nous. Je sais pas si c'est parce que les villages étaient très éloignés aussi, puis on se communiquait moins. Fait que chaque légende, chaque village avait son légende. On se créait du légendaire peut-être pour se faire de la publicité extérieure à travers le Québec.
J'avoue,
ça pourrait peut-être être un point. On a parlé d'hommes forts plus tôt, puis dans un autre épisode avec Francis, on comparait. T'sais. C'est ces comparaisons de villages-là aussi, j'imagine. Peut-être que c'est juste le goût de se comparer.
Notre village est plus légendaire que le tien.
Ouais, probablement, c'est ça. Puis nos personnages sont toujours plus grands que nature. Pourquoi on va aller voir le village à Fred Pellerin tout à coup à Saint-Élie? C'est devenu légendaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui l'a légendé, comme tu dirais toi-même, tu sais. Si il y avait pas eu de feu d'artifice ou de grossissement ou d'exagération, bon, c'est moins intéressant à ce moment-là, tu sais. Au lieu de mesurer 6 pieds 4, s'il mesure 6 pieds 1000, ben, ça change la perspective de celui qui l'entend.
6 pieds 1000, oui, j'avoue que...
C'est là que le grandiose y vient. Et puis là, finalement, bon, tu peux toujours surprendre ton public puis leur dire, ben, finalement, c'était pas 6 pieds 1000, mais...
6 pieds 600,
c'est ça. C'est un petit peu plus petit parce que t'es proche. C'est bien. Si tu t'éloignes ben loin, il va repogner son 1000.
Agrandir les choses, exagérer un brin ou deux, rendre les histoires, les lieux, les gens... plus grand que nature. C'est le propre de l'humain, ça. On fait même ça avec les histoires de pêche. C'est comme l'été passé à Radisson. Je suis dans le bassin en train de pêcher une affaire de truite de 3 pieds. Bon. Là, je sais, tu dis 3 pieds, c'est quand même un moyen poisson. Non. 3 pieds. 3 pieds de large. Moi, c'est en largeur que je mesure mon poisson.
Hey, Marc-André, ton poisson, là, il pourrait bien mesurer 6 pieds 3 quarts, là. C'est pas qu'on s'en fout un peu, mais c'est un peu ça. C'est pas ça, le sujet du balado.
Je le sais, Val, que c'est pas le sujet, mais le monde a le droit de savoir.
Marc-André!
OK. Regarde bien, Val. Je vais me reprendre. pour de la pêche aux gros poissons, eh bien, il n'y a pas juste Radisson.
Il y a un autre conte, là, qui est le baleinier de Gentilly.
Oui.
Gentilly avait à cette époque un grand rêveur des berges, un homme aux espérances aussi grandes que le fleuve, Pierre dit le Gris. Il avait fait bâtir maison ainsi qu'un quai d'observation sur le bord du chemin qui marche. Chaque soir, lorsque le fleuve n'était pas pris dans les glaces de l'hiver, lorsque le fleuve redevenait navigable, Pierre allait s'asseoir à son poste d'observation et y attendait patiemment le bon moment. Il espérait devenir le premier et seul chasseur de baleines de Gentilly. Et c'était pour apaiser cet immense désir qu'il attendait chaque soir sur la grève, dans l'attente de voir apparaître au loin le geyser d'une baleine. Harpon à la main, silencieux, il scrutait l'horizon du fleuve et épiait le bruit des vagues. Patient, tranquille, mais surtout naïf, Pierre Dilegris approchait chacune des nuits comme un haut potentiel de réussite. Plus les nuits passaient, plus son désir était ardent. Il pourrait attendre des années contre vents et marées pour enfin harponner.
Quand je l'ai écrit, ça pouvait pas.
Puis là, c'est vrai, ça se pouvait.
Mais oui, il y a une baleine qui est montée jusqu'à Montréal. Finalement. Bon, là, au début, moi, dans ma tête, ça se pouvait pas. Quand j'ai écrit ça, qu'une baleine parte de l'océan puis remonte le fleuve, j'ai fait « OK, je vais pouvoir mettre du légendaire là-dedans. »
Qu'il y aurait donc une baleine dans le secteur de Saint-Pierre-les-Bequets. On va de ce pas en discuter avec Mme Marie-Ève Muller. Elle est porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Bonjour, Mme Muller.
Bonjour à vous.
Bon, une baleine à Saint-Pierre-les-Bequets, ça arrive souvent ou pas du tout, ça, pour commencer?
Oui, c'est plutôt rare. Surtout une baleine de cette taille-là. On parle d'un rorque à la bosse, là, aussi appelé baleine à bosse. C'est une baleine qui peut mesurer entre 13 et 17 mètres. Donc, un bon spécimen, disons. On avait déjà par le temps...
J'avais déjà entendu des vieilles histoires, justement, de pêcheurs, de baleines qui remontaient. Puis, ah, je vais pouvoir mettre un harponneur à Chantilly qui attend sa baleine. Mais là, c'est arrivé.
T'es le Régent Tremblay de... du folklore québécois. Les histoires invraisemblables que t'écris, je finis par arriver.
Lance et compte.
C'est ça.
Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut trafiquer notre quotidien?
Pour le rendre intéressant.
Mais qu'est-ce qu'on a de oui, mais en même temps, on le sait qu'il n'est pas toujours de même, notre quotidien. Là. On dirait qu'on veut toujours, même quand on se raconte, puis hier, comment ça s'est passé, oups, on en rajoute. Puis, oups, on en rajoute.
Je pense que c'est pour plaire.
C'est humain ou c'est québécois?
Puis, ouais, je pense que c'est dans la...
Humain?
Je pense que c'est dans l'humain ou dans... Non, mais peut-être dans le québécois, dans l'ADN de québécois, de se prouver, de le rendre toujours meilleur. Oui, j'ai fait le travail. J'ai travaillé toute la journée, j'ai voulu le faire, je l'ai accompli de façon grandiose. Tu l'as fait, tu as déroché ton champ, ça a pris 6 mois, mais tu l'as fait en un mois l'année d'après. Pourquoi pas? Si ça impressionne, si ça rend les gens heureux autour, si ça les fait rire ou sourire. Sans être menteur, on exagère, tu sais.
Sans être menteur, on le faisait. J'avoue, pas menteur, juste agrémenteur. Comme le bûcheron qui pouvait se faire 3 cordes de bûche à l'heure, à main nue. On veut y croire. On veut aussi le voir, mais d'emblée, on y croit.
Est-ce qu'on croit maintenant des fois aux légendes parce qu'on veut... C'est parce qu'on veut y croire ou parce que...
Pourquoi pas?
Ouais, mais on a arrêté de croire au Père Noël. Mais on veut bien croire qu'il y a un monstre dans le lac Frémé-Bégog.
Ouais. Mais on veut encore croire à Maurice Richard, qui est le meilleur joueur de tous les temps, et que personne ne pouvait arrêter, puis qu'il paradait 6 joueurs de Boston sur son dos.
Ouais.
On aime croire à ça plutôt que de Lekkonen qui a lancé un beau but sur réception. C'est moins dramatique que Maurice, tu sais.
Ça va être une grosse question là, que je viens de penser à ça. Est-ce que les conteurs d'il y a longtemps, avec leur histoire, étaient les complotistes d'aujourd'hui? À inventer des histoires, puis le monde croit à ces histoires-là, parce que ben, moi, mon arrière-grand-père, il croyait au loup-garou, là. Lui, il en a vu un. Puis tu lui disais, tu Fred, ça n'existe pas, il te chicanait pour te dire, non, j'en ai vu un. Y a-tu des connexions à faire? Là, c'est sûr que le gros complotiste, c'est gros, là, mais
est-ce qu'il y a une connexion entre les conteurs de l'époque puis la rectitude qui devait être diffusée?
Ah.
Donc l'Église était derrière ça, là. On parle d'Honoré Beaugrand. Beaugrand, dans la chasse-galerie, là, entre autres, là, c'est un peu pour persécuter le village. Là, pour lui dire, hey, il y a trop de party dans ce village-là. Puis, si je me trompe, c'est bien Honoré Beaugrand qui l'a écrit. Là. Je me trompe pas. Ben, en fait, lui, il habitait pas loin du village de Contrecoeur.
C'est fort possible.
Si je me trompe pas, puis c'était un petit peu pour pointer. Puis bon, on le publiait dans ce temps-là, dans le journal. Là, c'était publié. Je pense qu'il a compté. Il y a 4 comptes qui ont été publiés, lui, dans le temps des fêtes. Je pense quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il s'est réglé des comptes, moi, de petits villages. Je serais pas surpris de ça.
Peut-être, hein? Une façon de... Ben, comme bien des films font, là, on va déclarer.
C'est les films de l'histoire, hein, aussi. Il ne faut pas oublier les contes. Tu sais, la réalité, les gens ne savent pas lire à l'époque. Où c'est qu'on va piger nos histoires quand on ne sait pas lire? On se les fait raconter.
C'est vrai. Puis les images sont bien plus belles.
Ben oui.
Puis si tu veux régler des contes rapidement, efficacement, profitablement, la solution, Satan. Belzébuth, Lucifer, roi des enfers. L'archétype légendaire par excellence au Québec.
Puis, un beau jour de printemps, pendant que le soleil mangeait la vieille neige, un homme frappa à la porte de la forge. D'une élégance repoussante, d'une hygiène décevante et d'une odeur souffrante, la chose donnait plus du côté animal que de l'humain. Des cornes de bélier et des pattes de chèvre, un nez de brebis et des yeux de mouton. Ce diable des enfers faisait un excellent bouc à misère.
Mais que diable faites-vous ici?
Se demanda Éloi.
Semblerait-il que vous êtes le meilleur d'entre tous, que vous faites la barbe à vos amis ainsi qu'à la concurrence?
C'est bien vrai. Et en quoi mes compétences sont-elles de taille?
Je vais leur signorance à Rive-Nord, dans le domaine des vieilles forges du Saint-Maurice. Pour m'auto-débarbifier.
Alors, votre seigneurie des enfers, asseyez-vous ici,
dit Éloi en présentant l'enclume comme siège. Le diable enleva son manteau, puis prit place sur l'enclume encore chaude du forgeron. Un léger sourire se dessina dans le visage de cet émissaire des enfers lorsque ses fesses se sentirent comme à la maison. Éloi remonta un appui d'eau et souleva des accoudoirs pour mettre en grand confort cet invité inhabituel.
Moi, j'ai l'impression, quand tu parles à d'autres conteurs de d'autres pays, le diable, ils ont beau connaître que l'enfer existe dans toutes les cultures, mais ils n'ont pas tant de diable dans leur
conte. Il est omniprésent dans la culture québécoise.
Pourquoi?
Toujours.
Pourquoi on a ça, nous autres?
C'est sûr que c'est notre héritage catholique chrétien depuis jour 1. On sait que Montréal, Ville-Marie, devait être un Rome en Amérique, hein, une ville de Rome en Amérique. Tu sais, on y pratiquerait la vertu, puis tu ne pouvais pas lancer une roche sans briser un vitrail à Montréal, qu'on disait. Fait que, est-ce que ça a déjà, tout de suite, en partant, été un personnage de morale? Parce que ça prend un bon puis un méchant, évidemment. Alors, le curé, qui était omniprésent dans toutes les couches du Québec, de toutes les sociétés ou de toutes les villes, c'était le référent de la rectitude. Donc, il s'en servait comme personnage, c'est sûr.
Mais, je sais pas si tu as déjà remarqué, là, c'est en faisant des lectures sur le diable, c'est jamais lui le méchant.
Non.
Il fait
le séducteur, c'est l'entremetteur.
Ouais, il fait juste te le péché en dedans de toi, puis il fait juste te donner l'occasion de le faire.
Ouais.
Mais il te force pas, il fait rien, il dit si tu veux le faire, je peux t'aider. C'est tout.
C'est ça.
Fait que c'est un méchant, mais. C'est nous, les méchants, en fond. Dans toutes les légendes, là, c'est les bûcherons qui veulent faire avec l'heure pour aller voir leur femme s'enivrer et fêter quand... Attends, là, c'est tout. Là. L'hiver va finir un moment donné. Là.
On t'a arrangé ça.
Mais on c'est jamais un vrai méchant. C'est pas Darth Vader, là.
Mais c'est ta conscience que tu devrais pas écouter. T'sais.
Le Yaob, une des deux consciences que je devrais pas écouter. L'autre, c'est Val.
Hey, t'es pas gêné, Marc-André Fortin?
Non, avec toi, je suis pas gêné.
Puis il prend plusieurs formes. Hein. Le diable prend toutes les formes au Québec, on dirait. Et des fois, il apparaît en chapeau, tout chic, tout beau, mais des fois, il apparaît tout crasseux.
Ouais, c'est vrai.
Toutes les formes, dépendamment de ce qu'on veut lui faire passer comme message.
Puis est-ce qu'il représentait aussi des fois notre ennemi? En tant qu'à l'époque, Canadien-Français, le diable paraît toujours en anglais. C'était toujours des habits anglais, le chapeau haute forme, comme si... Souvent, le diable parlait anglais ou avait un accent anglais. On savait qu'il n'était pas de la région. C'était-tu comme... Penses-tu qu'on mettait un peu de l'ennemi ou de
je sais pas, hein, c'est une bonne question. Je pourrais pas...
Dans les contes, le diable est souvent représenté comme le patron anglais ou alors l'ennemi de guerre, aussi anglais. La tunique rouge n'aidant sûrement pas. Le diable est dépeint par les habitants comme on décrit un avocat, un notaire, un homme de loi. J'imagine que c'est une façon de se rebeller en restant bien assis chez soi. Mais en même temps, le diable, même en légendaire, ça fait pas l'affaire de tout un chacun.
Mais Sam avait cueilli, il y a jamais rien qui a été fait que sur le diable.
Non.
Pas de contrat hein, qui a été fait que sur
On
le
a fait un banquet de Noël sous le signe du diable, oh. Où le diable était le maître de cérémonie. Il arrivait dans la salle avec les mains en feu, il s'éteignait les mains sur scène, puis il dit « Bon, ben ce sera pas long, j'ai quelqu'un sur le feu. » Puis mais encore là, on a fait ce banquet-là il y a 18 ans presque.
Oh, okay.
Puis à l'époque, on a reçu des plaintes de personnes qui nous disaient, parce qu'on envoyait des fax hein, avant les courriels, on envoyait des fax, puis on a eu des plaintes, il y a des gens qui nous disaient, voyons donc, vous pouvez pas mélanger le diable avec Noël, ça se fait pas, puis
ah,
je
wow.
pensais qu'on était déjà passé par-dessus, mais non, il y a certaines personnes qui n'étaient pas passées par-dessus encore.
Fait que ça, c'est encore fort, ça veut dire, fait que, je veux dire, on a créé des légendes de diable, mais qui encore perdure aujourd'hui, puis qui reste dans notre imaginaire collectif, ça veut dire?
Peut-être, mais dans une certaine génération, je suis pas sûr que...
Ouais, ça, mes enfants...
Je pense qu'il y a une coupure aujourd'hui avec notre génération plus jeune là, que nous, en fait, là, les cinquantenaires. Mais moins... Je pense que les jeunes sont moins exposés à ça. Ils n'auront pas connu, comme nos parents ou nos grands-parents, la rectitude, le bon, le mal, le rouge, le bleu. Le yambé dans la cabane, les dominos, les femmes ont chaud. Le yambé dans la cabane, puis des boutons, le bouton du haut. Le yambé dans la cabane, la boucane sort les oreilles à chaud. Le yambé dans la cabane, wow, ça sera pas beau.
Éloi Bigoron était un homme court sur pattes, des pieds larges comme des enclumes et des mains de fer dans des gants de fer. Face ronde à la barbe de laine d'acier, les rumeurs apportaient qu'il pouvait boire du métal en fusion et croquer des charbons ardents. Éloi avait la réputation qui débordait d'au-delà des frontières du village. Il n'était pas rare de voir des étrangers venir se faire ferrer le sabot de cheval et se faire trimer la face de bœuf. Du marteau au ciseau, du cheval aux cheveux, le barbier forgeron avait la même réputation pour ses deux corps de métier. Celle de vérifier tout son ouvrage au peigne fin et de trimer dur toute la journée.
Des fois, je me questionne. Dans douche, il y en a qui chantent dans douche? Moi, je compte dans douche. Puis je me demande pourquoi le forgeron, pourquoi ce corps de métier et pas un autre? Pourquoi pas l'apothicaire ou même le meunier?
Le meunier est souvent, on dirait, la victime du diable, tandis que le forgeron, il va être celui qui combat le diable.
Ah, c'est vrai, ça.
C'est pas si parce qu'il bat le feu, il travaille avec le feu, il est musclé, il est charismatique, il est fort, il est grand, il est gros.
T'es jamais un petit frère, là?
Non, c'est ça. Puis quand j'ai fait de la forge, non, j'ai pas fait de la forge, mais on okay. a eu des différents forgerons à différents événements, puis j'avoue que... Ceux qui sont en chess et qui martèlent en muscle sont beaucoup plus attrayants que ceux qui jasent de la forge à côté. Mais
j'avoue
est-ce que.
Ça.
Puis je pense que c'est dans le folklore québécois aussi. Il me semble que le forgeron est toujours imagé comme un personnage fort, musclé, suant, rustre, mais qui est fair, qui est honnête. Il bat le fer, il construit des outils importants. On le valorise beaucoup dans notre folklore, mais. Puis de mémoire, c'est ça, je pense que c'est peut-être un des seuls qui, justement, est pas d'égal, mais au niveau de la force, peut rivaliser avec le diable.
Oui, j'avoue, parce que maintenant, même au Forge Saint-Maurice, il y a quand même de grands personnages qui ont été légendifiés, comme Édouard Tassé, tu sais. Fait que peut-être parce que c'est le seul qui se coltaillait avec le diable. C'était jamais le maître du haut fourneau qui se coltaillait. C'était jamais non plus M. Simonet qui était à la charge de Mathieu Bell. C'était tout le temps... Les forgerons, l'homme, puis c'est toujours des hommes forts, t'as toujours des grands diloquents, peut-être même plus grands que nature. Je sais pas si c'était des vrais hommes forts ou les légendes les ont juste.
Ouais, ben lever un marteau puis frapper sur un enclume à journée longue.
Moi, j'avoue que ça.
Ça fait une paire de bras, là.
On est loin d'Internet, là, pour naviguer, là.
Ça, c'est sûr.
Là, je sais pas si tu travailles. Oui, je sais que chez Oyer, vous travaillez aussi des fois avec soit des Atikamekw ou des Abénaki. Dans une des histoires qui est sur Wolinak.
Oui.
J'en parle, puis moi, je me questionnais quand toi, tu dois travailler avec soit de l'histoire autochtone ou des contes autochtones, c'est pas les tiens, c'est pas à nous, puis on veut pas non plus tomber dans la profession culturelle, mais en même temps, on va en parler parce que c'est important d'en parler. tu navigues comment dans le légendaire autochtone?
Bien, si on parle pour eux, on parle pas pour eux, en fait, on peut raconter ce qu'on voit, la perspective du truchement ou du blanc, si on veut. Mais quand on a nos invités qui sont là, ou les Mi'kmaq, c'est leur donner la latitude qu'ils ont besoin pour, justement, dire les vraies affaires.
Oui, oui, c'est ça.
Leur laisser
oui,
la
oui.
place, puis tout ça. Les légendes autochtones sont pas très nombreuses. En tout cas, moi, j'en connais 3-4, là. Puis, je pense que c'est plus... dans notre travail à nous, les gens sont plus curieux par leur mode de vie que par leur légende.
Okay.
Puis, je pense que, en tout cas, parmi les gens qu'on a dans notre équipe, il y a beaucoup de rectitude historique qui se fait plus que d'imaginaire. Parce que nous, en tant qu'entreprise, on va exploser des concepts qui nous appartiennent, des personnages. On va exagérer, tandis qu'eux vont peut-être ramener ça à l'essentiel parce que les gens, dans leur tête, exagèrent déjà leur vécu, tu sais.
Ah ouais, j'avoue.
Donc, eux autres apportent une certaine rectitude. Oh non, c'était pas comme ça, c'est plus comme ça. On connaissait pas si on informe tout ça. Tandis que nous, dans notre truc, on va exagérer complètement. Là.
Ouais, c'est ça. On, comme si on les avait déjà légendifiés. Fait qu'on a ouais. déjà notre.
Puis on peut caricaturer un soldat du roi, mais on peut pas caricaturer un autochtone aujourd'hui.
Non, puis avec raison.
Puis avec raison, exactement. Fait qu'on va leur laisser le temps de faire toute la rectitude qu'ils ont besoin, parce que c'est pas fini, puis c'est même pas juste en animation. Je pense que la société, ouais. en général, a besoin d'une mise au point. Puis une fois que la mise au point sera faite, bien, ce sera à eux de légender eux-mêmes, parce que qui on est, nous, pour légender quelque chose qu'on n'a jamais connu, ou presque pas connu, ou vécu, tu sais, on est en parallèle de chez les
Non, effectivement, des Premières Nations, ça a été un grand questionnement. Ça a été le conte le plus long à écrire. J'ai pris beaucoup de temps à choisir les mots, à faire des recherches.
Ouais, et plus souvent qu'autrement, dans l'histoire, on les a dépeints comme des étranges, des non-convenables à la société. Pendant qu'on les décrivait de façon douteuse, d'autres sont jamais passés à l'histoire.
Pourquoi il y en a qui passent à l'histoire, puis d'autres non? Malgré qu'ils ont fait des choses incroyables. Puis là, c'est pas légendifié, là. Non. Vraiment, ils ont fait des choses grandioses.
Elle nous a fait une grosse déclaration.
Serge Bouchard et ses remarquables oubliés, là, elle nous a fait découvrir bien des affaires.
Oui. Je pense que c'est parce que c'était des femmes. C'est plate, hein?
Oui, non, mais on m'a douté un peu de la réponse ouais. aussi, là.
Je pense que c'est juste parce que c'était des femmes, puis on s'est pas intéressé aux femmes au début.
Et puis pourtant, là, des femmes qui ont marqué l'histoire, ben il y en a une puis une autre. Hein? Que ce soit marqué l'histoire beaucoup ou marqué le quotidien de l'histoire. Des madames, moi, je vous le dis, il n'y en a pas assez dans notre patrimoine mémoriel, dans nos contes, dans nos traditions, nos musiques traditionnelles.
Ça me donne le défi de légendifier une couple de madames.
Hé, t'es pas game, t'es même pas game.
OK, je vais te prendre au mot, on verra. Nos légendes sont déjà grandes au Québec et on en fait des livres, des films, des spectacles. Mais on pourrait les rendre encore plus grandes si on mettait à parler de nos géantes, pour que les petites se reconnaissent, puis qu'à leur tour, elles deviennent des légendes. On devrait tous et toutes s'y mettre, à jaser de nos mères, nos femmes, nos sœurs, pour que plus tard, on y compte tous et toutes en cœur.
Merci à notre invité Frédéric Lalumière pour sa participation. Merci à la Société acadienne Port-Royal de la ville de Bécancour pour son accueil. À Village Découvert, le balado est une production de Via 95 réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bécancour dans le cadre d'une entente de développement culturel. À l'animation, Marc-André Fortin et Valérie Deschamps. Réalisation, adaptation et scénarisation, Valérie Deschamps. Concept et développement du projet, Philippe Saint-Pierre. Images sonores, Dominique Brouillard. Recherche, Sandrine Pelletier. Technicien de production, Justin Savard. Captation, montage et enrobage sonore, Philippe Saint-Pierre. Sur la base de la publication À Village Découvert du conteur Marc-André Fortin et sur une idée originale du comité culturel de la MRC de Bécancour, ont aussi participé au développement du projet Louis-Martin McCardle et Marie-Claude Tremblay pour Via 95. Marthe Taillon, Isabelle Rouette et Kathleen Brisebois-Gagnon pour la MRC de Bécancour.